La 30e journée mondiale du refus de la misère, organisée par les Nations Unies en partenariat avec ATD Quart Monde, le quotidien La Croix et RFI.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Trocadéro pour cette édition spéciale 30e anniversaire de la journée du refus de la misère. Et oui, c'était il y a 30 ans, ici même sur le parvis des droits de l'homme, que plusieurs milliers de personnes se réunissaient à l'initiative du père Joseph Wresinski, fondateur du mouvement ATD Quart Monde, pour dire non à la pauvreté et pour la dignité. C'est la signification des lettres ATD. Agir tous pour la dignité. Écoutez Joseph Wresinski.
Il faut respecter, et on sera respecté si on sait parler. On sera reconnu comme des partenaires sociaux. Alors non seulement on défendra nos droits, mais on défendra les droits de tout le monde. Nous pourrons obliger le pays à changer.
Cette journée a ensuite été reconnue et reprise par les Nations Unies en 1992. C'est ce qui explique qu'elle est désormais mondiale et qu'il y a des cérémonies un peu partout dans le monde, à Paris, d'abord ici même, au Trocadéro, mais aussi au siège des Nations Unies à New York. Sur tous les continents, nous irons à New York, à Dakar, à Guatemala City, en partant d'ici où de nombreux invités vont nous rejoindre. Certains sont déjà avec nous dans ce studio éphémère au Café de l'Homme, au Trocadéro. C'est une émission que vous pouvez suivre également sur Facebook Live et sur le site de RFI, www.rfi.fr, en vidéo. Marion Nivelet, vous êtes ce qu'à ATD on appelle une militante, c'est-à-dire que vous vous êtes retrouvée en situation de pauvreté et de précarité. Vous vous êtes engagée dans ce combat pour en sortir vous-même, mais aussi pour participer à un effort collectif. Ça représente quoi pour vous cet anniversaire, Marion Nivelet?
C'est important pour une fois dans l'année, on puisse au moins être entendu par tout le monde, aussi bien les politiques que les associations et tout. Moi, je pense que les pauvres ont besoin au moins une fois par an, ce qui n'est pas beaucoup, être entendu.
Bruno Dabou, vous êtes le délégué général adjoint de la télé Quart Monde. Vous aussi, vous étiez là il y a 30 ans, de la première, c'est ça, hein ?
J'étais là il y a 30 ans le 17 octobre et quand c'était la première, on ne pensait pas qu'il y aurait une deuxième.
Et il y avait quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes.
Hein. Il y avait 100 000 personnes. Ouais. Et quand on participait à l'organisation, on s'était dit plus jamais ça, tellement c'était trop compliqué. Pour moi, j'étais extrêmement ému que 30 ans après, il y a toujours cette fête de l'engagement ensemble et de permettre que des personnes en situation de pauvreté prennent la parole et qu'il y ait des oreilles qui les écoutent.
Vanessa Stettinger, vous êtes sociologue spécialiste de l'enfance et de la pauvreté de l'enfance, oui, en particulier. Ça vous fait quoi d'être ici là, pour cette journée spécifique?
Je vous remercie pour l'invitation. Donc, je suis, c'est vrai, une des rares sociologues à s'intéresser aux enfants qui vivent dans la pauvreté. Donc voilà, je suis heureuse.
On va voir ça. Il n'y a pas beaucoup de données, je crois.
De participer, d'être là avec vous aujourd'hui.
Merci à vous trois. On va d'abord aller à New York pour retrouver Isabelle Perrin, qui est membre du secrétariat général d'ATD Quart Monde. Bonjour Isabelle Perrin.
Bonjour.
Il est un peu plus de midi à New York. Vous êtes dans les locaux de Radio ONU. Quel est le programme de la journée et des cérémonies au siège des Nations Unies?
Alors d'abord vous dire que le ciel est lumineux à New York. Et cela me fait penser à ce que Seamus Neville, qui est délégué de la Grande-Bretagne, des familles qui luttent vraiment contre la pauvreté tous les jours, tout à l'heure va dire dans la commémoration de la journée mondiale: nous voulons un avenir lumineux pour nos enfants. Nous ne voulons pas qu'ils vivent encore la misère. Il faut que la misère s'arrête une fois et pour toujours, maintenant. Et c'est ça le sens de cette journée. Le 17 octobre, il y a 30 ans, a changé les choses. A inscrit dans cette dalle que les plus pauvres sont vraiment des défenseurs des droits de l'homme, qu'on ne peut plus laisser tant de vies partir dans le silence, et qu'il faut reconnaître qu'ils sont des partenaires. Et puis a inscrit aussi que la misère est une violation des droits de l'homme, et ça change tout. C'est pour ça que plus rien ne sera comme avant, parce que la misère est vraiment reconnue comme une violation des droits de l'homme, et donc ça veut dire que c'est un combat. On ne peut pas donner un petit peu de droits de l'homme, on doit éradiquer la grande pauvreté, on ne peut pas la réduire, parce que les droits de l'homme, c'est pour tout le monde, et c'est tous les droits pour tout le monde. Et ça, ça change tout. Et donc aujourd'hui, aux Nations Unies, il y aura deux temps. Un premier temps, dans une grande salle de conférence, où on va d'abord écouter le message du secrétaire général de l'ONU, qui nous redit qu'on n'avancera pas, qu'on ne pourra pas réaliser l'agenda 2030 si on ne s'appuie pas d'abord sur les visions, les points de vue. Si on n'écoute pas les plus pauvres, on ne pourra pas avancer. Et il va nous inviter à joindre toutes nos mains pour stopper la pauvreté. Il le dit à la fin de son message, stop poverty, all together in dignity, agir tous pour la dignité. Et ensuite, on va écouter des prises de parole de militants, de délégués venant de différents pays qui vont exprimer à la fois ce qu'ils vivent et leur combat. Et un combat, comme disait la militante tout à l'heure, un combat qui n'est pas que pour nous, mais qui est pour tous ceux qui sont encore derrière nous et pour tous ceux qui se cachent encore aujourd'hui dans la honte et dans la misère, dans le silence. Et suite à leur prise de parole, des personnes solidaires des très pauvres au Burkina Faso, en Haïti, vont aussi s'exprimer. Et puis, nous écouterons les partenaires de cette journée, c'est-à-dire le PNUD, c'est-à-dire la mission de la France, l'ambassadeur de France et l'ambassadeur du Burkina Faso, parce que la mission de la France et la mission du Burkina Faso portent vraiment cette journée, la défendent et la font vivre chaque année. Il y aura aussi d'autres partenaires, puisque nous sommes aussi très, très en lien en permanence avec le département des affaires sociales et économiques des Nations Unies. Donc il y aura un premier temps dans une salle de conférence, et le deuxième temps sera autour de la dalle, la réplique de la dalle du Trocadéro, qui a été offerte par la France en 1996 aux Nations Unies, comme le symbole de quelque chose que la France porte profondément, et qui est le combat contre la misère, le combat pour les droits de l'homme.
Isabelle Perrin, je vous interromps juste, pardon, vous nous avez parlé du programme de la journée. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont prévues à New York. Vous nous avez parlé de l'agenda 2030. Est-ce que vous pouvez nous préciser de quoi il s'agit? Que font les Nations Unies? Quels sont les programmes qui sont lancés pour la lutte contre la pauvreté?
Alors oui, justement, en 2015, tous les chefs d'État, tous les États ont pris un engagement de mettre fin à la misère d'ici 2030. Et on peut dire qu'ils ont là vraiment entendu ce que portent les familles très pauvres partout dans le monde qui disent « Nous voulons que la misère s'arrête avec notre génération. Il ne faut pas que nos enfants continuent à connaître la misère. » Donc les États se sont engagés et ce qui était extraordinaire, et nous, à TD Quart Monde, avec d'autres partenaires, nous avons beaucoup travaillé pour que cet agenda mette vraiment comme priorité éradiquer la misère en ne laissant personne derrière. Parce qu'en 2000, nous avions été déçus que la promesse du millénaire d'éradiquer la misère...
Les objectifs du millénaire, c'est ça.
Les objectifs du millénaire se transforment en un objectif chiffré qui disait « Nous allons diminuer la proportion de personnes qui vivent la pauvreté de moitié ». Et partout où nous sommes allés dans le monde, les gens nous ont dit de moitié, mais alors c'est pas nous, c'est pas mes enfants, c'est pas mes voisins. Et nous savons que quand des projets, des politiques n'atteignent pas tout le monde, elles rejettent ceux qui ne sont pas atteints, ceux qui ne peuvent pas monter avec les autres dans les projets, dans une plus grande misère encore. Donc nous avons beaucoup bataillé pour que soit inscrit dans cet agenda 2030, « Leave no one behind », »,« Ne laissez personne derrière ». Et aujourd'hui, notre combat, c'est vraiment que partout, nous ayons vraiment conscience de ce que ça signifie. Parce que ne laisser personne derrière, ça veut dire commencer par ceux qui sont le plus loin, commencer par ceux qui sont le plus dans la misère aujourd'hui. Mais ça, nous devons le faire comprendre. Et nous essayons de le faire comprendre avec les personnes qui vivent la grande pauvreté elles-mêmes. Parce qu'elles, tous les jours dans leur vie, c'est ce qu'elles cherchent. À ne pas abandonner un voisin qui a une vie trop difficile. Et donc, c'est avec elles qu'on peut vraiment essayer de réaliser cet objectif.
Bruno Dabou, ça touche combien de personnes dans le monde, la misère et la pauvreté?
Alors moi, je ne suis pas un spécialiste des statistiques. Je sais que M. Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, dans son message, il parle de 800 000 personnes en situation d'extrême pauvreté. Mais on sait aussi que ces statistiques sont très, très fragiles. Et un des travaux actuels au niveau international qu'on mène, c'est justement de se donner avec des personnes en situation de pauvreté, avec des universitaires de différents pays à travers le monde, et de réfléchir, de se donner ensemble, de construire ensemble qu'est-ce que c'est que les dimensions de la pauvreté et quels pourraient être des indicateurs de pauvreté.
Alors merci Bruno Dabou. On va laisser quelques instants Isabelle Perrin à New York et on va aller à Dakar, parce que vous ne savez peut-être pas, mais la journée est mondiale, mais ça n'est pas pour rien. Tout de suite, on va retrouver notre envoyé spécial permanent au Sénégal, Guillaume Thibault. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir à tous.
On ne le sait pas forcément, mais c'est un Sénégalais qui est à l'origine du choix du 17 octobre par les Nations Unies comme journée mondiale de lutte contre la pauvreté. C'est une page d'histoire. Hein. C'est aussi la date choisie, donc le 17 octobre, par les Nations Unies à la suite d'ATD Quart Monde pour marquer cette lutte contre la pauvreté. Et ça vient du Sénégal.
Exactement, Guillaume, il y a 25 ans tout juste, Djibril Diallo travaillait aux Nations Unies à New York, docteur originaire du Sénégal, spécialiste des questions. On lui demande à cette époque-là de participer à une réunion avec toutes les délégations. Et pour marquer leur engagement, les Nations Unies, vous l'avez dit, souhaitaient créer une journée de lutte contre la pauvreté. Lors de cette réunion, l'intervention du docteur Diallo va être capitale.
Je me souviens de cette journée comme si c'était hier. J'étais au courant de l'excellent travail de cette organisation, ATD Quart Monde, qui parlait de lutte contre la misère. Mais j'ai dit, pourquoi ne pas partir de son idée d'avoir le 17 octobre comme journée internationale de lutte contre la pauvreté.
Et aujourd'hui, Djibril Diallo est toujours au sein des Nations Unies, Guillaume, mais il est revenu sur sa terre natale au Sénégal.
Pour occuper un poste difficile, complexe, puisque le docteur Diallo est directeur de l'ONU SIDA pour l'Afrique de l'Ouest, mais cet homme est un éternel optimiste qui ne lâchera jamais rien.
Les gens vous disent que la pauvreté a été là depuis l'aube de l'humanité. Elle sera là lorsque nous serons partis. Moi, j'ai dit non. D'abord, je suis très optimiste parce que j'ai vu énormément de progrès vers l'atteinte des objectifs qui sont lutter contre la pauvreté et la faim zéro.
Voilà le défi posé, Guillaume, assumé par des docteurs, par des chercheurs de la trempe du docteur Djibril Diallo. Un combat qui s'annonce long et difficile.
Et alors, ce qu'on ne sait pas, c'est encore une anecdote dans l'anecdote, c'est que, en fait, Djibril Diallo, il a eu l'idée de pousser cette journée mondiale du refus de la misère en écoutant RFI, un reportage sur le 17 octobre. Et ça fait longtemps, en fait, que RFI est engagé dans cette, dans ce combat de la journée mondiale du refus de la misère. Vous le savez, la présidente d'ATD Quart Monde France, elle travaille à RFI, vous la connaissez tous, c'est Claire Hédon. Et ça fait quelques années maintenant qu'elle s'occupe de ces choses-là. D'ailleurs, en ce moment, là, sur le parvis droits de l'homme. Claire Hédon a parlé il y a quelques instants. Je ne sais pas si elle-même chante, mais il y a des chants sur le parvis des droits de l'homme qui sont en train d'être chantés pour célébrer cette journée mondiale du refus de la misère. On va laisser écouter ça quelques instants. Et ça se termine à l'instant, évidemment, c'est la magie du direct. Donc on va pouvoir continuer. Alors, c'est une journée qui existe depuis 30 ans, on continue peut-être ce voyage. Non, on va pas y aller tout de suite. On va pas aller au Guatemala tout de suite. On va aller tout de suite avec Bruno Dabou. Vous parliez de 800 000 personnes en France. On entend 9 millions de pauvres. On entend souvent ça dans la parole politique. Qu'est-ce que ça veut dire s'il y a 800 millions au niveau mondial, 9 millions en France, ça concerne qui exactement?
L'extrême pauvreté, ça en fait, quand des personnes vivent une précarité dans le domaine du logement, dans le domaine de l'emploi ou dans le domaine de l'éducation, c'est une insécurité. Plus ça dure, plus c'est grave. Plus ça se cumule, plus c'est grave. Et puis il y a un moment où c'est tellement grave qu'en fait, on n'a plus les moyens par soi-même d'améliorer sa situation dans un avenir prévisible. On devient vite accusé de ne pas prendre ses responsabilités. Donc l'extrême pauvreté, c'est ça.
Oui, c'est une dimension dont on ne parle pas souvent, ouais. C'est que les pauvres sont stigmatisés. Souvent, on leur dit « vous profitez des minima sociaux ». Enfin, voilà, c'est souvent une accusation d'être pauvre.
Je pense que de tous les temps, et en particulier dans les temps de crise, on a fait la différence entre les bons pauvres et les mauvais pauvres. Et les mauvais pauvres, c'est simplement ceux qui sont dans des situations encore plus difficiles.
Marion Navelet, vous qui avez été dans cette situation, vous vous êtes sentie stigmatisée souvent ?
Oh oui, presque tout le temps. On est souvent stigmatisé en disant « Oui, de toute façon, vous êtes paresseux, vous êtes feignant, vous voulez rien faire, vous voulez vivre que de l'argent de la société. » Mais ce qui est absolument faux, c'est pas vrai du tout. Si on pouvait avoir du travail ou même de l'argent, on vivrait comme tout le monde. On n'aurait pas besoin de demander les minima sociaux.
Ça veut dire quoi, être pauvre? Ça veut dire que les portes se ferment devant vous, qu'on ne vous regarde plus vraiment?
On vous prend
Comment ça se caractérise?
On vous prend pour des idiots. on pense que vous n'avez rien dans la tête, que vous n'avez rien à dire. Or, c'est pas vrai. Chaque personne qui vit dans la grande précarité a quelque chose à dire. Et ça, jamais personne ne les écoute. Et pour moi, j'ai trouvé personnellement, quand j'étais à l'Université populaire d'Athée-des-Carmontes, j'ai trouvé un endroit où, pour une fois, on nous écoutait ce qu'on avait à dire, parce qu'on a beaucoup de choses à dire.
C'est quelque chose d'important, Bruno Dabou, le fait de travailler non seulement pour sortir de la pauvreté avec des gens qui sont engagés, qui sont et des gens qui le vivent eux-mêmes. C'est quelque chose de très important dans le message d'Athée-des-Carmontes, qu'on fasse ça tous ensemble.
C'est la raison de vivre d'Athée-des-Carmontes, hein, de rassembler des personnes en situation de pauvreté avec des citoyens de tous horizons et de lutter ensemble contre la pauvreté. Et d'avoir des militants qui ont l'expérience de la pauvreté, d'avoir des personnes qui militent dans leur milieu, qui militent dans leur profession. Le point commun, c'est d'oser prendre des risques, en fait.
Et d'insister sur la dignité des militants et des personnes à qui ça s'adresse, en fait. Parce que c'est vrai que quand on se sent stigmatisé comme ça, on n'ose plus prendre la parole et on a peut-être tendance à rester dans un système où on est relégué.
Toutes les personnes ont une...
ont quelque chose à dire. Voilà.
Toutes les personnes ont une dignité. On dit, il y a souvent l'expression « perdre la dignité », mais ce n'est pas vrai. C'est la dignité qui est plus reconnue, mais toutes les personnes ont une égale dignité.
Alors, on va continuer ce voyage. Guatemala City, c'est faisable. Hein, je vous avoue qu'on avait eu des difficultés parfois à se demander si on allait avoir la liaison, parce que on part à Guatemala City pour rejoindre Nathalie Barrois. Bonjour, est-ce que vous nous entendez ?
Bonjour, je vous sens très bien.
Vous êtes volontaire à t'aider à Guatemala City. Là aussi, une cérémonie est prévue sur place. Qu'est-ce qui va se passer, Nathalie Barrois ?
Alors, d'ici peu, nous attendons l'arrivée de quelques personnalités qui viennent pour écouter une parole qu'on a préparée durant toute l'année sur la jeunesse, les efforts des parents pour permettre à leurs jeunes de réaliser leurs rêves, d'avoir une vie digne, les efforts des jeunes eux-mêmes qui souvent sont vus de façon très très négative ici. Il y a comme une peur de la jeunesse qui les empêche de développer leurs capacités. Donc on a travaillé ce thème toute l'année avec les familles dans leur quartier et puis on a eu une belle rencontre avec des institutions, avec les parents, les jeunes, en permettant un échange croisé, un croisement des savoirs pour aboutir à un beau message que nous allons transmettre tout à l'heure. Et nous aurons aussi, comme chaque année, le thème de la paix, qui est un thème très important pour ce pays qui se remet difficilement de tant d'années de guerre, même si c'était il y a plus de 30 ans, et montrer comment les familles du Carmonde sont porteuses de paix et que dans leur quartier, souvent tant critiqué, il y a des germes de paix. Donc elles sont toujours présentes avec le symbole de la rose de la paix.
Marion Navlet est avec nous. Vous êtes volontaire. On a parlé des militants qui étaient là. Qu'est-ce que ça veut dire volontaire chez Athée-des-Carmontes ? Pourquoi vous vous êtes engagé dans ce combat-là ?
Alors, chacun entre avec ses motivations. Moi, c'est beaucoup la dignité de la personne qui m'a motivée. Refusons totalement que des personnes soient traitées comme des inutiles. Le fait de pouvoir permettre à chacun d'apporter quelque chose à la société, c'est ce qui m'a engagée. Et après, je suis restée parce que j'ai beaucoup aimé la façon de pouvoir rencontrer des gens très différents, mais dans la recherche d'une parole vraie, de trouver l'engagement de chacun et de vraiment se mettre ensemble. Avec les richesses de chacun, accepter moi comme l'autre, des fois de changer d'idée, de changer de position, de se comprendre. Et c'est peut-être une utopie, mais c'est une belle utopie. Et vraiment, je crois qu'on fait des avancées et que cette participation de tous dans la société, depuis 20 ans que je suis volontaire, je sens que ça bouge. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me pousse à durer dans ce volontariat permanent.
Merci Nathalie Barrois. On va saluer Louis Gallois qui vient de nous rejoindre dans ce studio éphémère du musée et du Café de l'Homme au Trocadéro. Bonsoir Monsieur Gallois.
Bonsoir.
On va parler avec vous dans quelques instants. Vous êtes le président de la Fédération des acteurs de la solidarité. On va parler de ça dans quelques instants. J'avais envie de demander à Vanessa Stettinger, qui est donc, qui est donc sociologue, spécialiste de la pauvreté des enfants, s'il y a une spécificité à la pauvreté pour les enfants. Est-ce que c'est quelque chose qui a des ressorts particuliers par rapport à la pauvreté en général ?
La pauvreté des enfants, juste très rapidement, la pauvreté, c'est pas qu'il y a un manque d'argent, mais c'est une difficulté d'accès aux soins, une difficulté d'accès à la culture. Et pour les enfants, différemment d'adultes, qui est déjà formé et fait, pour les enfants, ça va porter préjudice à leur vie à l'avenir. Donc déjà, ils ne sont pas responsables du tout de leur situation. Ils n'ont pas la main pour faire quelque chose. Et puis, c'est un risque pour leur avenir. Et on peut dire aussi que cette pauvreté, par rapport aux travaux aussi que j'ai faits et les familles que j'ai pu voir, on la voit, cette pauvreté, sur leur corps. La pauvreté maltraite les enfants, maltraite physiquement. Ils perdent leurs dents, des problèmes de santé, des problèmes d'ordre psychologique. Un manque de reconnaissance aussi, qui est important pour leur avenir. Donc, ils sont conscients de la différence, ils sont conscients du regard de l'autre depuis les jeunes âges. Donc, je me souviens d'une petite fille qui m'a dit, une fois, quand je lui dis « Qu'est-ce que vous rend heureuse ?» Elle a dit « Le 5 du mois ». Parce que c'est le jour où sa mère touche le RSA. Donc on voit, voilà, comment de tout petit, ils ont conscience de ces difficultés, comment ils sont marqués par la pauvreté.
En France, la pauvreté touche un enfant sur cinq. Selon Eurostat, la situation s'est fortement dégradée entre 2003 et 2012 à cause de la crise économique. Chantal Leroux est responsable du secrétariat famille et petite enfance au sein du mouvement ATD Quart-Monde. Écoutez son témoignage.
Il y a à peu près 20% d'enfants en dessous du seuil de pauvreté. Mais ce qui est important de voir, c'est que c'est des enfants qui sont dans des familles qui sont pauvres et à qui on ne donne pas forcément les moyens de pouvoir vivre en famille dignement. Je pense tout simplement à la question du logement. Beaucoup de familles vivent en errance sans logement fixe. Et donc, quand on imagine ce que c'est que de vivre en errance, ça veut dire pour les enfants, quelquefois, changer d'école plusieurs fois dans l'année. Ça veut dire ne pas, tout bêtement, ne pas pouvoir faire ses devoirs le soir. Ça veut dire ne pas pouvoir inviter ses amis à un anniversaire parce qu'on habite nulle part, en fait. Ça veut dire aussi avoir toujours peur, cette peur d'être séparée qui est très très forte pour les familles très pauvres, en sachant qu'il y a plus d'enfants qui sont d'origine pauvre parmi les enfants qui sont placés. Et il y a toujours cette peur d'être séparés, de ne pas pouvoir être ensemble. Et je pense aussi des enfants qui ne peuvent pas vivre avec leurs deux parents. Quelquefois, ils vivent avec leur mère et puis leur père est à la rue ou chez un ami. C'est vraiment un combat de pouvoir vivre en famille quand on est pauvre.
Des propos recueillis par Anna Piekarek du service France de RFI. Vanessa Stettinger, qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre la pauvreté spécifique des enfants? Est-ce qu'il y a des pistes qui sont plus intéressantes que d'autres?
Tout d'abord, il faut s'intéresser à cette pauvreté des enfants. Et puis, ce que je vois en France, et d'ailleurs en tant que chercheur, c'est qu'il y a très peu d'intérêt. On s'intéresse peu aux enfants pauvres. Il y a peu de travaux sur ces enfants. On a quelques travaux et statistiques, mais lorsque c'est aller voir comment ils vivent, comment ils font, comment ils se débrouillent, leur stratégie, qu'est-ce qu'ils mettent en place, donc on n'a rien. On n'a pas non plus, en France, on a commencé une étude très récemment de cohorte d'enfants, c'est-à-dire voir comment la pauvreté peut toucher tout au long de leur vie, les conséquences de la pauvreté.
Ça veut dire, oui, quand on est pauvre, si ça démarre tôt, c'est presque pour la vie, c'est une fatalité ou on essaye de faire que non.
On essaye de faire que non, mais malheureusement, on ne sait même pas les conséquences, on ne connaît pas les conséquences de la pauvreté. On a des données aux États-Unis, en Angleterre, dans d'autres pays, mais pas en France. Donc c'est un manque d'intérêt des pouvoirs publics. Et d'ailleurs, j'ai écrit au ministère, j'ai dit il faut prendre en compte la pauvreté des enfants, c'est grave, c'est important, il faut faire quelque chose. Et voilà, il y a des choses à faire, mais il faut réfléchir à ce qu'on fait.
Alors, Louis Gallois, merci de nous avoir rejoints dans ce studio. Vous êtes le président du conseil de surveillance de PSA. Vous avez dirigé des entreprises comme la SNCF, ADS, mais ce n'est pas le dirigeant d'entreprise que nous recevons ce soir. C'est le président de la Fédération des acteurs de la solidarité. C'est pas le nom qui vient le premier à l'esprit quand on entend parler de lutte contre la pauvreté. Il y a des associations, ATD Carmonde, Emmaüs, beaucoup de choses comme ça. Qu'est-ce que c'est la Fédération des acteurs de la solidarité ?
La Fédération des acteurs de la solidarité, comme son nom l'indique, c'est une fédération d'associations. Il y a aussi des noms associatifs. 850, toutes les grandes associations, ou presque, de lutte contre l'exclusion et la pauvreté sont membres de cette fédération. Donc nous rassemblons ces fédérations et nous essayons ensemble de mener le combat contre la pauvreté et l'exclusion. Mais si vous permettez, je voudrais poursuivre sur ce que vient de dire madame sur les enfants. Avec l'UNICEF, nous avons fait le 4 septembre, c'est-à-dire le jour de la rentrée des classes, nous avons fait une étude sur le 115. Le 115, c'est le numéro de téléphone que l'on appelle lorsque l'on a besoin d'un hébergement d'urgence. Sur 4000 demandes d'hébergement d'urgence, 1172 concernaient des mineurs. Sur ces mineurs...
Ça fait plus d'un quart, hein, c'est ça.
Oui, pour ces mineurs, plus d'un quart, bien sûr. Pour ces mineurs, les deux tiers n'ont pas pu recevoir une réponse positive.
Donc ça veut dire qu'il y a encore 800 enfants dans la rue.
Ils ont dormi dans la rue ou dans des squats, ils ont trouvé des solutions, ils n'ont pas pu recevoir une réponse. Et ceux qui ont reçu une réponse, une grande majorité est partie à l'hôtel. Or, il y a une étude du service social, à laquelle je vous renvoie d'ailleurs, qui montre à quel point l'hôtel est, pour les enfants, un problème dramatique en termes de nutrition, de malnutrition, en termes de santé... Pas de suivi de santé. En termes de scolarisation, 10% des enfants à l'hôtel ne sont pas scolarisés. Donc on a une situation qui est extrêmement préoccupante. Ce que je veux dire, c'est quand même que les enfants pauvres, ils ont des parents pauvres. Et que donc, lorsqu'on essaye de développer des politiques qui visent les enfants, et c'est l'entrée que nous propose le président de la République actuellement sur la concertation, il faut savoir aussi que lorsqu'il y a que c'est en fait un problème global et que la pauvreté des enfants reflète la pauvreté des parents et reproduit la pauvreté des parents. Parce que les pauvres ont des enfants pauvres qui ont une très grande chance de le rester.
Oui, vous étiez ce midi à l'Élysée avec les acteurs de la lutte contre la pauvreté pour ce déjeuner. Vous étiez reçu par le président de la République. Quel a été le message présidentiel ?
Bien, le président de la République a engagé une concertation. Nous l'avions souhaité depuis longtemps. Nous l'avions souhaité parce que nous avions passé un été moyen, ou j'allais dire assez mauvais, en apprenant la baisse des APL, la remise des aides personnelles au logement, en apprenant la baisse des contrats aidés, etc. Nous avions le sentiment qu'il y avait...
Oui, qui sont très importants dans le milieu associatif.
Hein, oui, qui sont très importants. Une partie massive des économies du budget 2018 porte sur le logement et l'emploi, qui sont deux secteurs qui nous concernent directement. Et nous voulions savoir où en était le gouvernement là-dessus. Donc le président de la République nous a reçus. Il nous a proposé une concertation avec une entrée qui sont les enfants, la pauvreté des enfants et des jeunes. Nous acceptons tout à fait cette entrée. Elle est tout à fait significative. Elle répond peut-être d'ailleurs à certaines de vos préoccupations. Mais il faut savoir que lorsque l'on va traiter ces sujets, on va traiter globalement de la pauvreté. Parce que les enfants ne sont pas pauvres, comme je le disais, par hasard. Ils sont pauvres parce que les parents sont pauvres, parce que les parents ne travaillent pas, parce qu'ils ne sont pas logés, ils sont en centre d'hébergement où ils sont très mal logés, parce qu'ils ont des problèmes de santé, etc. Donc c'est tous les problèmes de la pauvreté qui vont se trouver posés.
Marion Navelet, vous avez connu cette situation parce que quand vous étiez en situation de pauvreté, vous aviez des enfants.
J'avais un bébé, je vivais dans la rue. J'ai vécu pendant 6 ans dans la rue avec un bébé.
Et donc, c'est quelque chose qui rend la chose encore plus difficile, évidemment.
Oui, oui, oui. Mais c'est le seul moyen que j'avais, c'était de... Parce que j'aimais lire. Et c'est vrai que j'étais au centre Georges Pompidou. Et elles m'ont accepté avec le bébé. Puis j'allais lire. Parce que comme ça m'a aéré. Ça m'a évité de trop galérer. Parce que la nuit, on ne peut pas dormir. Une femme seule, dans Paris, ne peut pas dormir. Voilà.
Alors, parce que oui,
il y a trop de violence.
Il y a trop de violence dans la rue, évidemment. Oui. Vous parliez de lecture et de bibliothèque. Sortir les enfants de la pauvreté, ça passe évidemment par l'éducation, par le savoir, par par la culture. C'est ce qui vous a fait avancer quand vous étiez à la rue.
Oui.
C'est ce qui continue à vous faire avancer aujourd'hui. Hein,
oui, oui, ouais, 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 toujours.
Parce que c'est, vous insistez là-dessus, c'est votre combat, vous, l'accès à la culture pour les plus pauvres.
Ben parce que je trouve que c'est important, parce que je ne vois pas pourquoi il y aurait une culture à deux vitesses.
Ouais, les gens,
la culture des pauvres et la culture des riches. Or, moi, je pense que, par exemple, vous voulez aller voir une exposition, ça coûte trop cher, on ne peut pas y aller. Si on a des... que le RSA, ben, on compte au jour le jour ce qu'on va dépenser. Or, moi, je trouve que ce n'est pas juste. Tout le monde devrait pouvoir aller voir quand il y a des très belles expositions, quand il y a... ou du théâtre, ou n'importe, et qu'il n'y ait pas une qu'il n'y ait pas des préjugés. Les gens pauvres, enfin, ou qui sont en grande précarité, sont aussi intelligents que les autres et ont besoin de beau. C'est quelque chose qui, pour moi, est nécessaire et tout le monde devrait pouvoir le voir. Ça ne devrait pas seulement être réservé aux riches.
Les gens en situation de pauvreté ont droit à la culture. Est-ce que c'est un droit de l'homme ou pas?
C'est un droit de l'homme. Si, hein, c'est un droit qui n'est pas respecté.
Voilà. Louis Gallois, la pauvreté, en fait, tire toute la société vers le bas. On évoquait tout à l'heure, avant votre arrivée, le chiffre de 9 millions de pauvres. Il y a de plus en plus de jeunes dans des territoires jeunes. C'est une énergie formidable, en fait, qui est perdue pour la société.
Bien sûr, quand vous avez 150 000 décrocheurs par an, alors c'est un peu moins maintenant, c'est peut-être 120 000 décrocheurs par an, c'est-à-dire de jeunes qui décrochent du système scolaire et qui arrivent à 18 ans, ils n'ont ni formation, ni emploi, et leurs parents sont incapables de les soutenir et qui sont laissés à eux-mêmes. On les retrouve dans les foyers d'hébergement. Actuellement, dans les foyers d'hébergement des associations que nous fédérons, 25% des personnes ont entre 18 et 25 ans. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans, 15 ans. Donc on a une pauvreté des jeunes qui devient un problème absolument massif, qui résulte à la fois des difficultés de l'éducation et puis bien sûr de la situation du marché de l'emploi.
Est-ce que vous avez le sentiment, à vous écouter, on n'a pas l'impression que la société progresse, avance, ou alors que les barrières sont toujours là? On en parlait tout à l'heure, la stigmatisation des plus pauvres, ceux qui touchent les minima sociaux, ils sont toujours soupçonnés de tricher un petit peu. Est-ce que vous avez cette impression aussi?
Écoutez, oui, on a ce sentiment, mais en même temps, moi, je ne veux pas trop insister là-dessus, parce que c'est vrai, quand j'entends parler de la triche sur les minima sociaux qui doit coûter 100 ou 150 millions, et que je compare ça avec la fraude fiscale qui doit représenter 60 à 80 milliards, je me dis quand même qu'il y a deux poids, deux mesures. Mais moi, je voudrais aussi insister sur l'élan de solidarité, parce que c'est ça qu'il faut mettre en exergue. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de solidarité. Il faut leur parler solidarité parce qu'ils en ont envie. Et ils ont envie aussi de se montrer généreux, de se montrer accueillants. Et je pense que c'est cette partie de chacune des personnes qu'il faut essayer de pousser plutôt que de constamment stigmatiser ceux qui existent. Refuse cette solidarité.
Bruno Dabou, vous, à TD Quart Monde, vous sentez cette volonté d'aider, de faire changer les choses? Vous avez beaucoup de volontaires qui viennent frapper à votre porte?
Ouais, écoutez, pendant le week-end, là, on a organisé un événement en place de la République, un village des initiatives, pour montrer comment, ensemble, avec beaucoup de partenaires, on essaie, avec des militants, beaucoup de militants qui ont l'expérience de la pauvreté, comment on essaie de changer les choses dans plein de domaines de vie. Il y a 30 000 personnes qui sont venues et vraiment plein de gens. Bon, d'accord, il y avait le soleil, mais quand même, on voit que les gens étaient là, quoi.
Alors le soleil, justement, on va y retourner. On va repartir à Dakar parce qu'il n'y a pas juste Djibril Diallo à Dakar. Il y a aussi cette cérémonie. ATD a organisé une cérémonie pour ce 30e anniversaire de la journée de lutte contre la misère. Guillaume Thibault, rebonsoir.
Bonsoir.
Une cérémonie durant laquelle l'accent a été mis sur la libération de la parole, la recherche de solutions. On parlait de culture et là, c'était à travers l'art.
Partout, on veut entendre, en général, des spécialistes ou des scientifiques ou des politiciens. Mais ici, aujourd'hui, nous voulons entendre surtout les pauvres, ceux à qui on ne donne pas la parole, en général.
Et voilà comment Daniel Marino, d'ATD Quart Monde au Sénégal, a ouvert cette journée au Parc de Hanne. Dans l'Assemblée, un doyen, Monsieur Sénégal, oui, je n'invente rien, Sénégal Ndiaye, qui estime que les autorités ne peuvent pas tout, mais qu'elles ne sont pas suffisamment présentes, pas suffisamment à l'écoute des plus pauvres.
La pauvreté est là. Ces autorités actuelles, bon, ne la cachent pas, mais n'agissent pas encore, à mon avis, comme il le faut pour les personnes défavorisées. Mais on ne peut pas aider une personne, à mon avis, sans l'avoir entendu dire où il a mal.
Alors l'une des clés d'ATD Quart Monde, c'est entendre les différentes voix pour trouver collectivement des solutions. À Dakar, Guillaume Thibault, vous avez suivi du théâtre de l'opprimé.
L'amour, la joie, l'union.
Refusons la misère.
Des scènes jouées en interaction avec le public pour le faire réagir ici, la main du peuple où chacun lance un mot qu'il trouve essentiel pour la société. Dans la foulée, des débats ont été organisés, économie, environnement, droits de l'homme, autant de sujets liés à la pauvreté. S'ils ne sont pas respectés, estime Fadel Barreau du mouvement Yanamar, venu aussi ici en simple citoyen.
Parce qu'il y a des journées comme ça symboliques où on doit s'arrêter pour se rendre compte de toute cette misère qui nous entoure. Le combat n'est pas que politique, ça c'est un combat citoyen. Si nous voulons avoir de la démocratie, il faut d'abord combattre la pauvreté. Si nous voulons avoir de la justice, il faut combattre la pauvreté. La pauvreté, la misère, c'est le nid de tous les problèmes que nous vivons en Afrique, dans le continent. Il faut être là alors pour le dire.
Fadel Barreau et les autres avec leurs mots du théâtre. Sédouba est lui venu lutter contre la misère aujourd'hui avec sa guitare et cette chanson, Kadalou.
Kadalou, ça veut dire s'approprier de la chose, du trône. Et ça dit aussi que quand tout le monde partage tout, chacun a son mot à dire.
Le reportage de Guillaume Thibault à Dakar. Merci Guillaume et bonne soirée à vous. Bruno Dabou, c'est une chose sur laquelle on n'a pas beaucoup insisté depuis le début de l'émission. ATD Quart Monde, c'est un mouvement vraiment international. Il y avait ce volontaire là au début du reportage qui était manifestement québécois. Ça vient de partout et ça va partout. Hein. C'est l'idée.
C'est un mouvement qui est aujourd'hui dans 35 pays, mais qui est surtout en 35 pays, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup, hein, il y a au moins 200 pays à l'ONU, donc
191 exactement.
Voilà, c'est ça. Ouais. donc, mais on est surtout en lien avec d'autres acteurs associatifs dans une centaine de pays à travers le monde, et c'est clair que le message du fondateur d'ATD Quart Monde, le père Joseph Rezinski, c'était de s'unir ensemble. C'est ce qui est écrit sur la dalle du Trocadéro. C'était s'unir ensemble pour l'accès aux droits de l'homme pour tous.
Louis Gallois, vous êtes donc le président d'une fédération d'acteurs de la solidarité. Est-ce que ça veut dire que finalement, il n'y a pas une méthode pour lutter contre la misère et contre la pauvreté, mais plusieurs, et qu'il faut toutes les employer en même temps, faut attaquer sous tous les angles, c'est ça l'idée ?
Oui, c'est certainement. On ne découpe pas les personnes en tranches. Et il faut prendre la totalité de la personne dans toutes ses difficultés, dans tous ses défis. Et je crois que c'est important que ce soit la santé, l'hébergement, l'emploi, la vie familiale, la culture, vous l'avez dit. Il faut aborder tous ces sujets. Et deuxièmement, il faut que tous les acteurs se rassemblent. Je pense qu'il ne faut pas... Rien ne s'oppose. Il faut des politiques nationales. Et nous demandons des politiques nationales à l'État. Mais il faut aussi de l'initiative locale. Et cette initiative locale, elle naît du rapprochement de tous les acteurs associatifs, les entreprises, les collectivités locales, les pouvoirs publics. Il faut que tous nous travaillions ensemble sur les territoires. Moi, je m'occupe d'une initiative qui a été lancée d'ailleurs par ATD, qui est le fonds les zones zéro chômeur, la volonté d'éradiquer le chômage. Eh bien, tous les acteurs sont réunis pour travailler là-dessus. Et je pense que ce que nous sommes en train de démontrer, c'est que ça marche.
Vanessa Stettinger, je sais que vous êtes très attachée à la pauvreté chez les enfants, mais c'est ce qu'on vient de dire. On ne peut pas parler de pauvreté chez les enfants sans parler de celle des parents. C'est une lutte qui est un petit peu globale.
Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, le travail que j'amène auprès, c'est auprès des familles. Et d'ailleurs, comment les liens se construisent dans ce contexte de pauvreté entre les parents et les enfants, parce que ça, c'est aussi quelque chose d'important. La pauvreté, elle met dans le foyer des tensions, des difficultés, et ça va poser des questions entre les relations qui peuvent nouer entre parents et enfants. Donc du coup, bien évidemment, ça concerne le foyer, le ménage, si on veut bien. On voit certaines familles où on voit que les enfants, ils ne mangent pas la même chose, parce que les parents ne peuvent pas donner à tous les enfants la même chose. Les petits mangent les steaks hachés, les grands mangent la fricadelle. On voit des familles où on apporte, voilà, on a ces difficultés-là. J'ai vu des familles où, par exemple, on va se disputer parents, père et fils pour des chaussettes, chaussettes. Donc, où ça met la tension, une violence, et ça, c'est difficile. Voilà, c'est des choses qui sont... Donc, bien sûr qu'il faut agir sur le ménage, sur les parents aussi, pour pouvoir contrer la pauvreté des enfants.
La violence, c'est quelque chose, une chose sur laquelle vous insistez toutes les deux, Vanessa Stettinger, vous, pour l'avoir observée, et vous, Marion Navlet, pour l'avoir vécue. C'est quelque chose qui est exacerbé par la pauvreté, parce qu'il y a de la frustration, évidemment. On voudrait pouvoir déjà manger à sa faim, avoir des choses, des chaussettes en l'occurrence. C'est quelque chose qui est présent en permanence.
Oui, oui, en permanence. Et puis surtout, ce qu'il y a, c'est que surtout quand on vit dans la rue, il y a le problème qu'on veut essayer d'oublier. Alors beaucoup se mettent à boire, parce qu'en pensant qu'avec l'alcool, ben, ça passera mieux, quoi. On pensera moins à son problème. Et ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal, il y a de la violence, mais j'arrive à comprendre que cette violence est une révolte. Les gens n'ont pas envie de vivre dans la rue, n'ont pas envie d'être pauvres. C'est pas une situation qui pour eux est agréable, même s'ils ont par exemple le RSA. Mais eux, ils voudraient avoir du travail, ils voudraient avoir une maison, ce que tout le monde devrait avoir, et pas être obligé de se battre pour ça.
Pour Louis Gallois, on en parlait tout à l'heure, est-ce que tout ça, là, le droit au logement, le droit à la culture, le droit à l'éducation, c'est des droits de l'homme qui sont tout simplement pas respectés aujourd'hui ?
Je prends le droit au logement, il est pratiquement constitutionnel. Le droit au travail...
C'est un droit opposable dans la loi française.
Oui, il y a un droit opposable, il y a des droits opposables. Mmh. Le droit au travail est un droit qui est dans le préambule de la Constitution. Et qui n'est pas évidemment respecté. Donc je pense que cette question des droits est essentielle. Accéder aux droits, c'est la première démarche qui s'impose pour des gens qui sont en situation de précarité. Ils ont droit à la santé, et on s'aperçoit qu'il y a des médecins qui refusent de les soigner. Bon, il y a un refus de soins. Nous essayons, nous, de travailler avec le défenseur des droits sur ce point, mais il y a des refus de soins. Le droit à la culture, ATD avait beaucoup travaillé sur le droit à la culture, que vous avez cité, c'est également important. Le droit au logement, il y a 4 millions de personnes, de ménages qui sont mal logés en France. Et quand on dit mal logés, c'est très mal logé.
Ou alors pas logé du tout. Hein,
ou alors pas logé du tout, bien sûr. Donc je pense que cette question des droits, elle est essentielle, parce qu'en plus elle place les choses de manière correcte. C'est pas une faveur qu'on fait aux gens, c'est l'exercice de leurs droits. Et je pense que ça, c'est extrêmement important, parce que ça évite de stigmatiser les personnes.
Vanessa Stettinger, vous vouliez réagir.
Juste pour rajouter cette importance de ce regard global dont vous avez parlé, ouais, où on voit parfois des familles qui sont accompagnées, très accompagnées, et c'est pas pour jeter la pierre à personne, mais qui ont psychologues, orthophonistes, travailleurs sociaux, et qui vivent dans un logement insalubre. Donc parfois... Voilà, c'est cette globalité, c'est cette concertation entre acteurs qui est extrêmement importante aussi pour lutter contre la pauvreté.
Bruno Dabou, comment on fait pour lutter contre la pauvreté dans la globalité ? Parce que c'est manifestement des portes qui se ferment partout, c'est très compliqué. Est-ce qu'il y a moyen de suivre les gens pour qu'ils aient tout à la fois ?
C'est une question difficile. Le père Joseph Rezinski, en 87, au Conseil économique et social, avait fait un rapport avec des propositions d'une politique globale cohérente et prospective qui se basait sur des actions dans différents domaines et qui lançait des expérimentations. C'est comme ça qu'il y a eu toute une déclinaison de lois.
C'est le rapport qui est à l'origine du revenu minimum d'insertion, notamment.
Notamment. Je pense que mais aussi la CMU, l'accès à la CMU, c'est quand même très important. On parlait des enfants. Avant, quand les enfants à l'école, quand on leur demandait comment on va pour se soigner, ils disaient « je vais à la mairie ». Et ils se faisaient moquer d'eux, et parce qu'effectivement, il fallait aller chercher des bons à la mairie, puis on les avait ou on ne les avait pas, puis on osait aller les chercher ou on n'osait pas aller les chercher. Donc il y a eu des changements. Je pense qu'un des domaines, évidemment, le plus difficile, hein, c'est celui que, M. Gallois, vous abordiez, la question de l'emploi et du projet Zéro Territoire Chômeur Longue Durée, qui est un projet extraordinaire. Moi, quand je suis arrivé à TD Quart-Monde, donc j'étais étudiant en école de commerce, j'en ai rêvé depuis 35 ans d'un projet comme ça. Il y a eu toute l'époque de création des entreprises d'insertion, mais insérer, il faut qu'il y ait des emplois au bout. Et donc, comment est-ce qu'on va créer des emplois? Et là, on expérimente. Et donc, dans ces différents domaines, comment les mettre ensemble? Je dirais qu'il faut partir des personnes en situation de pauvreté et leur demander d'abord quelle est à elles leur priorité.
Marion Navelet, on en parlait à l'instant. Vous avez vécu, vous, des refus de soins?
Ah oui, oui, oui. Oui, oui, ben oui, parce que, bon, au début, on n'ose pas aller demander. C'est vrai que pour moi, personnellement, je n'aimais pas les réclamer parce que j'avais toujours l'impression de...
De tendre la main.
Voilà, de tendre la main. Et ça, c'était pour moi quelque chose que je ne pouvais pas. Mais le pire que j'ai vu, c'est quand même des émigrés qui étaient avec nous, qui avaient l'AME. Et là aussi, il y avait des refus, mais c'était presque des insultes. On ne voulait pas les soigner. On leur disait, mais attendez, c'est des êtres humains, ils ont le droit d'être soignés. Même à l'hôpital, on les refusait.
Oui, c'est quelque chose qui n'est pas rare. C'est fréquent, vous l'avez vu souvent. Oui,
ah oui. Et je le vois encore maintenant. Hein. Il y a des médecins qui ne vous prennent pas quand vous avez la CMU. Ah non, non, non. Non, non.
Et c'est vraiment fréquent à ce point-là. C'est la loi quand même.
Oui, mais demander à certains médecins.
On vient de faire une étude qui montre bien.
C'est non seulement la loi, mais c'est le serment d'Hippocrate aussi.
Oui, absolument.
C'est le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire que c'est dans les gènes des médecins. Ouais. Et nous avons des cas de refus de soins qui sont extrêmement nombreux. Et nous n'arrivons pas à obtenir véritablement une modification de ces comportements. Mais je pense que nous allons beaucoup insister.
Et ça se manifeste comment, Marion Navelet? C'est des insultes? C'est non, on vous ferme la porte?
Non, on vous dit non, on ne peut pas vous soigner. Je suis désolée, mais je ne prends pas la CMU. Et nous, ce qu'on est arrivé à faire, c'est que dans une pharmacie qui refusait aussi de nous prendre parce qu'on avait la CMU, on a fait grève. Et puis on s'est mis tous d'accord et on n'y est plus allé. Et puis c'est tout. Je suis désolée, mais c'est un droit. Donc, à partir du moment où on a un droit, on doit le respecter. Pour les émigrés qui sont là, qui ont le droit à l'aide médicalisée d'État, je suis désolée, mais on doit les prendre. Ils sont comme tout le monde. C'est des êtres humains, ce n'est pas des bêtes. Même les bêtes, on les soigne.
En ce moment, sur le parvis des droits de l'homme et devant la dalle qui a été scellée par Joseph Rezinski il y a 30 ans, les militants d'ATD Quart-Monde sont en train de chanter pour ce 30e anniversaire de la journée mondiale du refus de la misère. C'est une soirée qui va durer encore quelques minutes, hein, jusque vers 19h15, 19h30. Il y a des gens qui sont là-bas sur le parvis et qui vont venir nous rejoindre pour en parler ensuite. Bruno Dabou, je sens que vous avez peut-être un peu envie d'être avec les gens là-bas, mais vous êtes avec nous. Il y a quoi au programme ce soir à Paris?
Là, en tout cas, on entend Zo Kweso, Tout homme est un homme. C'est un chant de Centrafrique et c'est très, très important dans la journée mondiale du refus de la misère d'être en communion d'esprit, en tout cas, avec les personnes en Centrafrique.
Ouais, et je signale d'ailleurs que vous pouvez avoir sur le site internet de RFI, en ce moment en direct, en vidéo, des extraits de cette cérémonie qui se déroule sur le parvis des droits de l'homme, www.rfi.fr, et sur la page Facebook de RFI, en Facebook Live. Bruno Dabou, est-ce que ces difficultés qui sont liées à la misère, est-ce que on peut vraiment les attaquer de manière globale ou est-ce qu'il faut y aller dossier par dossier, petit à petit? Comment ça se passe? Parce que on a l'impression qu'on est face à un mur, quoi, quelque part. 9 millions de pauvres, des gens qui refusent des soins. Comment on fait pour s'attaquer à ça? C'est quoi en quoi le message du père Retzinski vous aide là-dedans? Comment on prend ça quand on est au pied du mur? Voilà, j'allais dire ça comme ça, oui.
Le père Joseph, quand il a commencé dans un camp des sans-logis, comment est-ce qu'il a commencé alors que les gens étaient là depuis un an, deux ans et ça a duré 13 ans? En fait, c'est comme ça qu'il a créé avec les familles de ce camp. À TD Quart-Monde. Donc déjà, c'est s'unir avec les personnes en situation de pauvreté. Et donc, il y a rejoindre les plus pauvres, créer la confiance, s'unir avec d'autres, avec des personnes qui ont plus d'entrée dans les institutions, s'unir aussi avec tous les professionnels. Et donc, il y a ces deux côtés du combat. Il y a aller rejoindre les plus pauvres et puis il y a avancer avec les professionnels, avancer avec les institutions. Arriver toujours avec deux demandes, hein, une petite et une grande.
Elle est difficile.
Et toujours ne jamais lâcher la porte une fois qu'on a mis le pied dedans.
Elle est difficile, cette union, Louis Gallois, à réaliser entre les institutions et les gens qui sont dans le besoin.
Non, mais je pense que c'est un combat. Il faut le mener. Je dirais, moi, personnellement, je ne sais pas si tout le monde acceptera cette expression, que c'est un combat de caractère politique. Et il faut qu'on le mène,
qu'il soit
mené au niveau national, parce qu'il faut encore une fois des politiques nationales, et qu'il soit mené au niveau local, parce qu'il faut de l'action au niveau local. Il faut mettre en œuvre toutes les énergies pour résoudre ces problèmes. Mais moi, je crois qu'il faut aussi regarder les progrès qu'on a faits. Si le taux de pauvreté en France est un peu inférieur à ce qu'il est dans d'autres pays, c'est pas un hasard, c'est parce qu'on s'est battu, parce qu'il y a des gens qui se sont battus avant nous. Et je pense qu'il faut être capable aussi de regarder les progrès qui se font.
Merci, Louis Gallois, de nous avoir rejoints. Vous allez nous quitter. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci, Vanessa Stettinger. Et merci également à Marion Navelet. Bruno Dabou, vous restez avec nous. On se retrouve juste après le journal.